histoire particulière. Mon Dieu, comme il a souffert, le porc de la Cotinière. Hier, dans le premier épisode de notre histoire du week-end, Clémence Marie et Rafik Zénine vous ont raconté le drame du 11 août 1996. Le bateau de pêche L'Essor a fait naufrage, emportant 10 personnes. Les célébrations des fêtes de la mer ont été stoppées pendant 20 ans. Lorsqu'on travaille dans un port, la mer, le deuil et la vie ne peuvent être séparés. Et tout naufrage est indissociable du sauvetage, comme nous allons le découvrir dans ce second épisode. Une histoire particulière rend hommage à tous les membres de la Société nationale de sauvetage en mer, et en particulier à Ronan Leroux, patron de la SNSM de Belle-Île, décédé le 2 juin dernier.
La mer, ma foi, vous savez, la mer, elle est là. Je pense que le marin qui la craint pas est quelqu'un de dangereux. La mer, c'est aussi le risque. Il faut savoir l'intégrer en permanence et savoir que c'est elle qui risque d'avoir le dernier mot. Aimer la mer, ça veut dire la respecter avant tout.
Duel en mer. Les sirènes de la SNSM.
Dans les temps reculés, plus reculés, mon grand-père faisait partie du canot de sauvetage de Chauffe. Quand il y a eu le port Calédonia, là-bas, le 3 mois qui s'était mis sur Antioche, qui s'était fracassé sur Antioche, il voyait l'équipage, les deux canots de Saint-Denis et de Chauffe étaient là-bas. Ils ont essayé d'approcher, la mer était abominable, et il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'était avec les avirons. C'était en 1924, c'était avec les avirons. Ils n'ont jamais pu approcher l'épave. Sur les 25 marins qui étaient à bord, et ils se sont, les Finlandais, et ils se sont tous noyés. Et le lendemain, il n'y avait plus trace du navire. La mer était retombée, il n'y avait plus trace du navire, comme si c'était rien passé. Et ça, je sais que pour mon grand-père, par exemple, ou pour les autres, ils en parlaient avec... beaucoup d'émotions parce qu'ils les entendaient et ils ne pouvaient pas approcher. Ils ne pouvaient pas approcher vu les conditions de mer. Abominable. Quand vous voyez des gens qui lâchent les uns après les autres, vous ne pouvez pas en sauver. Ça les a souvent tourmentés. Hein. Ouais.
15 juillet 2017, Finistère Nord. Le petit port du Conquet s'anime. La mer est calme et les sauveteurs sont à l'honneur. On fête les 150 ans de la station. Au même moment, la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer, célèbre son demi-siècle d'existence.
Donc comme je vous disais tout de suite, là vous voyez que les sauveteurs sur le colonel Picot doivent ramasser la...
Dans ces eaux dangereuses, au lieu de naufrage, s'est forgée l'histoire du sauvetage. Car les fortunes de mer ont un revers positif. C'est l'histoire invisible des drames qui n'ont pas lieu et des fins heureuses. Hier à l'aviron, comme le raconte Jean-Claude Pelletier, ancien président de station de sauvetage, aujourd'hui en Zodiac ou sur la Louve, leur vedette d'intervention, les défis sont les mêmes mais les moyens sont différents. Frédéric Maurice, amiral en retraite et délégué SNSM du Finistère, nous fait la revue de ses troupes.
Typiquement, dans la SNSM, on a deux catégories de population. On a les sauveteurs embarqués qui sont des gens d'un certain âge, on va dire, parce que pour avoir... la disponibilité pour partir dans le quart d'heure, vaut mieux pas avoir une activité salariée, enfin, ou alors avoir une convention avec son employeur. Donc, les gens qui sont embarqués sur les bateaux de la SNSM comme sauveteurs embarqués, ce sont soit des retraités, comme moi, soit des gens qui sont à la marine marchande mais qui font des vacations à la mer et quand ils reviennent pour quelques semaines, ils sont en congé. Ou voilà, ou alors des marins pêcheurs qui ont quand même une relative facilité à sauter de leur bateau s'ils sont au port dans le bateau de sauvetage. Voilà. Et puis on a des nageurs sauveteurs qui sont des jeunes gens, qui sont des étudiants en général, qui ont une vingtaine d'années et qui se forment pendant l'année. Et d'ailleurs je suis assez admiratif de la discipline avec laquelle ils suivent toute leur formation parce qu'ils viennent tous les week-ends. C'est une formation exigeante, aquatique, secourisme, ils passent leur permis bateau, ils ont leur certificat radio restreint, etc. Et l'été, ils sont employés communaux, saisonniers, par les mers. Et c'est pour ça qu'on dit que la SNSM va de la dune au large, parce que les nageurs sauveteurs font la bande des 300 mètres, et puis au-delà.
comment se finance aujourd'hui le sauvetage à travers la
SNSM? Alors le sauvetage se finance essentiellement avec des donateurs. On va dire que l'État intervient dans le financement du sauvetage à hauteur d'on va dire de 20%. Là où il y a encore une vingtaine d'années, il intervenait à hauteur de la moitié. Parce que en fait, c'est une mission régalienne, c'est une mission. Le sauvetage en mer, c'est une mission qui appartient à l'État. La SNSM fait à peu près la moitié des sauvetages qui sont effectués sont faits par la SNSM et les interventions de nuit c'est 80% qui sont faites par la SNSM parce qu'elle a des délais de réaction qui sont extrêmement courts. Quand on appelle un bateau de la SNSM, le contrat moral qui est passé avec l'équipage c'est de partir dans le quart d'heure pour revenir au financement. Donc l'État contribue et puis tout le reste c'est financé donc par des grands comptes et puis après ben, il y a les donateurs privés, donc les gens comme vous et moi qui font un chèque tous les ans par fidélité à la SNSM. Et c'est là où on a un petit problème, c'est que parmi les plaisanciers, qui sont quand même très nombreux, on estime en gros qu'il y a peut-être 10 millions de plaisanciers en France, à peu près un dixième des gens qui donnent. Et on se dit quand même que c'est dommage que les 9 dixièmes restants, même s'il n'est pas question de les contraindre, ça serait bien quand même qu'ils se sentent plus solidaires avec la vie de la SNSM. Nos camarades britanniques, avec la RNLI, il n'y a pas un plaisancier britannique qui imagine ne pas donner à la RNLI, voilà.
Est-ce que vous pensez qu'on pourrait imaginer une forme de cotisation, par exemple ?
C'est toujours délicat, parce que quand on oblige les gens à payer, après, c'est un service... On entre dans une autre logique. C'est un service qui est dû, et donc on entre dans une logique de... Bon, j'ai payé, j'ai droit. Bon, alors, bah, évidemment, ils ont droit à être secourus, hein, ça. Mais voilà. Et donc, je rappelle quand même que le secours aux personnes est toujours gratuit. Mais l'assistance aux biens, elle n'est pas gratuite, parce que, voilà, c'est un peu la différence, on va dire, entre l'ambulance et la dépanneuse. L'ambulance pour sauver le blessé, c'est gratuit. La dépanneuse pour venir chercher la voiture, c'est payant.
On ne peut pas laisser sans moyens un secteur aussi important et aussi périlleux que celui-ci. Il suffit d'arriver comme je l'ai fait en hélicoptère pour apercevoir l'ensemble des îlots et donc des récifs. Enfin, ceux qu'on voit, ceux qu'on ne voit pas. Il faut vraiment des as, des marins remarquables pour, par temps difficile, franchir cette passe.
François Mitterrand, 1986.
Je pense que la grande richesse de la SNSM, justement, par les 250 et quelques stations qui existent en France, c'est que nous connaissons et maîtrisons parfaitement notre secteur.
Didier Quintel, président de la station de sauvetage du Conquet.
Effectivement, des années de pratique dans le coin permettent de gagner un temps fou en cas de besoin et de savoir si quelqu'un tombe à l'eau, par exemple, en fonction de l'heure, en fonction des courants et autres, où on peut le chercher. En fait, on n'a jamais besoin de prendre une carte pour se diriger sur notre secteur. On l'a dans la tête et on fait avec, quoi. Donc c'est vrai que le Conquet est un endroit particulièrement dangereux. Là, vous voyez juste la pointe qui est à la sortie du port, là, qui s'appelle la pointe de Kermorvan. Devant cette pointe passe un courant très violent qu'un nageur ne peut pas remonter, quoi. Donc quelqu'un qui tombe à l'eau à cet endroit-là, ça peut lui faire drôle très rapidement. Le chenal qui est devant nous, là, qui s'appelle le chenal du Four, est un endroit où passent de nombreux bateaux. Là, vous voyez des voiliers qui remontent vers le nord et qui avancent vite parce qu'ils ont le courant avec eux. Par contre, dans l'autre sens, ça va déjà être plus compliqué, quoi.
Ils ont des noms, ces courants ?
Non. C'est le courant de flot, puisque c'est marée montante. Et puis, vous avez le courant de jusant, marée descendante, qui va dans l'autre sens. Vous voyez, il y a une bouée en face, si vous voyez le voilier qui passe un peu au large, là juste devant lui, il y a une bouée qui est inclinée, donc là sur notre droite, et qui montre que la mer monte, et donc quand la mer descend, elle s'incline de l'autre côté. Donc elle nous sert principalement à savoir où est le courant sans avoir besoin de chercher un annuaire de marée. Mais bon, son rôle n'est pas là, son rôle c'est aussi de montrer un danger isolé, puisqu'il y a en fait une roche juste en dessous. Parce que là, bon, ce sont des petits bateaux qui passent pour le moment, mais là, vous avez aussi de très gros bateaux. Il y a des ferries qui passent là tous les jours, donc des bateaux qui font 250 mètres de long à peu près, et qui nous donnent aussi du travail, puisque l'année dernière, on a dû aller 3 fois, si mes souvenirs sont bons, chercher des malades ou des blessés à bord.
On imagine souvent les sauveteurs comme des sortes de héros qui interviennent dans des situations très spectaculaires, mais finalement, les types d'interventions sont très variés. C'est pas aussi... aussi phénoménal que ce qu'on peut imaginer comme quotidien.
C'est vrai que dans l'image des gens, je pense qu'ils imaginent le sauvetage en mer dans des tempêtes et des mers déchaînées. Bon, c'est des choses qui arrivent effectivement, mais ce n'est pas ce qui arrive le plus souvent. Quoi. Le plus souvent, actuellement, à cette époque-ci de l'année, ce sont des bateaux de plaisance qui appellent parce qu'ils sont en panne, tout simplement. Donc là, vous voyez les voiliers là, qui n'avancent pratiquement pas. Bon, là où ils sont, il n'y a pas de danger, mais on a des fois des personnes qui se mettent dans des situations très délicates et ils nous appellent pour aller les chercher. Bon, maintenant, c'est vrai que, surtout en hiver, on a des fois des sorties de nuit, dans le mauvais temps, sous la pluie, avec des très mauvaises visibilités, où là, le danger est beaucoup plus grand. Mais je crois que l'idée du héros est, à mon avis, une mauvaise idée. On est d'abord des gens qui faisons tout ce qu'il faut pour aider, mais en se protégeant nous-mêmes, je crois. Il faut surtout pas foncer tête baissée et puis après se dire mais maintenant comment je reviens quoi. C'est pas dans l'esprit du sauveteur de base, je dirais.
Ça vous est déjà arrivé d'avoir peur?
Sur le coup on n'y pense pas, parce que quand on a un travail à faire, enfin on a quelqu'un qui est en difficulté, il faut aller le chercher, on y va, on fait ce qu'il faut pour y arriver. Bon, parfois ça arrive la nuit, en y repensant on se dit ah ben là on n'est pas passé loin, mais non, on peut pas sur le moment avoir peur, parce qu'à ce moment-là, on risque d'être paralysé et puis de faire des bêtises. Quoi. Donc ce qui est important, c'est qu'on sache nos limites, qu'on connaisse parfaitement notre matériel, notre bateau, nos collègues. Et puis c'est toujours un travail d'équipe. Quoi. Quand nous sommes en mer, on veille les uns sur les autres. Ce qui fait que s'il y en a un qui se met en danger, bon, l'autre va l'aider. Enfin, moi, mon but principal, c'est que tout le monde rentre en bonne santé. Quoi. On est déjà une équipe avec chacun des spécificités et des spécialités, et on essaye chacun d'apporter ça aux autres. Vous voyez, par exemple, j'ai un collègue qui a été longtemps radio à Radio Conquet, là. C'est Jean-Pierre Clochon. Là, dernièrement, il vient de faire une formation à la radio de jeunes qui venaient d'arriver.
C'est ma part, Saint-Mathieu de la Louve, Canal 10. Ouais, je sais pas, j'arrive pas à voir personne. Bon, on sort pour la bénédiction de la mer. Nous sommes équipage 8 et passagers 7. Bon, on tourne devant la digue extérieure du Conquet.
Le Conquet est connu dans l'histoire maritime par la station radio maritime du Conquet qui a fonctionné de 1948 à 2000. Cette station radio maritime est chargée de communiquer avec les navires en mer, en morse, en phonie et ensuite passer au satellite. Donc arrivé à l'an 2000, il n'y avait plus besoin ni du morse ni des opérateurs radio. Donc la station a fermé, faute de clientèle entre le téléphone portable et les satellites ont capté toute la clientèle radio maritime. Donc je suis réserviste, donc quand il n'y a personne de disponible, j'ai la possibilité d'aller en mer, ce qui s'est produit encore la semaine dernière, quand on est allé à Ouessant faire une mission pour transporter des pompiers dans l'île d'Ouessant. Bon, c'est un milieu d'après-midi, les gens qui travaillent n'étaient pas là, et puis bon, par facilité aussi, on m'a demandé d'y aller. Quoi. Donc il va sans dire qu'à bord de la vedette, j'avais la spécialité de radio.
En quoi ça consistait?
À quoi ça consiste? Eh bien, c'est de prendre contact avec les autorités à terre, le Cross Corsen, par exemple. Si on va secourir un navire, si c'était un navire, c'est de prendre contact avec ce bateau-là, puis d'échanger les informations, de façon à ce qu'à terre, l'ordinateur des secours soit au courant de ce qui se passe, et que sur les bateaux, les gens savent que si on arrive ou si on n'arrive pas. Quoi.
Donc voilà. Parfois, vous devez rassurer les gens avec qui vous communiquez, parce qu'ils sont en difficulté sur les bateaux.
Le rassurer, oui, effectivement, peut-être qu'au ton de la voix, on le fait, mais autrement, pas spécialement. Quoi. Bon, c'est vrai que les gens sont parfois en grande difficulté, mais ils essayent de ne pas le montrer. Quoi. En fait, de difficultés, de stress, etc. Mais bon.
Vous avez un rôle central quand même pour récupérer les informations coordonner l'action.
Les informations à bord du bateau, hein, le patron et son adjoint communiquer avec le radio pour dire bon, on va ici, on va là, on y sera dans combien de temps, etc. Donc le radio, lui, retransmet les informations vers les navires à sauver et puis vers les autorités à terre. Hein.
Et tous ces petits postes de radio qui sont à côté de nous
Ça, c'est de, c'est de la collection. Hein. Donc, là, il y a peu de bric-à-brac, il y a un radar, il y a des sondeurs, il y a une, un radio Gogno. Enfin bon, c'est du matériel disparate. Hein. Il n'est pas en activité sur une table comme ça, dans, dans la navigation normale d'un bateau.
Autour de nous, il y a des photos qui sont accrochées. C'est...
Oui.
Qu'est-ce qu'elles montrent?
Qu'est-ce qu'elles montrent? Alors, elles montrent la vie de la station et plus particulièrement des interventions qui nous ont marqués à certaines époques. Vous pouvez avoir le remorquage d'un bateau de pêche. Ici, c'est l'assistance à un navire de pêche qui lui-même remorquait un voilier. Et puis, ça s'est mal passé en arrivant aux abords des pierres noires qui marquent l'entrée de, du chenal du four. C'est, ça se passait une nuit très très noire, la pluie. Et puis, donc, on nous avait pressenti pour aller d'abord récupérer un voilier. Bon, on est parti faire 11h le soir, on va récupérer le voilier, etc. Et puis, on dit, ah non, non, c'est pas, c'est plus le voilier que vous allez, c'est le chalutier qui est en train de couler. Bon, on va y aller. Donc, on est allé dans, dans les roches, là où il fallait. Puis, on a eu de la chance. Enfin, ils ont eu de la chance parce qu'il y avait un hélicoptère de la Marine nationale, un Lynx de la Marine nationale, qui faisait des exercices à l'époque... pas très loin, quoi. Donc quand il a su qu'il y avait une détresse, il est venu très rapidement. Les marins du chalutier avaient mis deux embarcations à l'eau, donc le Lynx a récupéré une partie du personnel. Et nous, comme on arrivait là sur place, donc, le Lynx a éclairé la scène, quoi. Et donc on a récupéré donc, les marins du bateau mouillés, mais sains et saufs. Quoi.
Je m'appelle Bertrand Marek, je suis à la station depuis 2006. Mon rôle à la station, c'est d'être plongeur. Alors c'est la compte, ça a été un... J'étais pas appelé à la base sur cette sortie-là. Et j'ai vu tous les collègues de la SNS arriver, et puis je leur ai demandé s'ils avaient besoin d'un coup de main. Donc là, je suis monté à bord. Et ça a été une sortie que je garde dans la mémoire, parce que c'est pas tous les jours quand même qu'on porte assistance à un bateau qui est en train de couler avec des hommes à la mer. Parce qu'à la base, on était sortis pour aller chercher... un voilier qui était dans les cailloux, puis après on nous a demandé, non, le voilier c'est un autre canot de sauvetage qui va s'en occuper, vous occupez du Célacanthe avec des hommes à la mer ou dans un réseau de survie. Et oui, c'est pas tous les jours qu'on a des sorties comme ça, parce qu'on avait la Marine nationale avec les hélicoptères en même temps, c'était presque digne d'un film d'action, quoi, voilà. C'est la première fois où je faisais un naufrage bateau comme ça coulé, on avait encore la cabine du bateau qui était éclairée avec le radar qui tournait alors qu'il était sous l'eau, c'était impressionnant. On est arrivé sur zone, l'hélicoptère de la Marine nationale était déjà là, donc avait déjà récupéré une partie de l'équipage. Et nous, on a pris en charge les dernières personnes qu'il y avait sur le bombard. Personne n'était resté derrière. C'est le principal. Après le bateau, c'est que du matériel. Il était sur les rochers, on le voyait, hein, on le voyait d'ici, on le voyait. Ils ont voulu le renflouer, ça n'a pas marché. Donc là, le bas du bateau est à 13 mètres de fond et le haut du bateau est à 3 mètres de fond. Posé sur du sable, sur le côté tribord, et donc il y a déjà plein de vie dessus déjà. Il a été recolonisé déjà. On va dire que la vie a repris son cours sur un drame, mais voilà, j'ai été là le premier soir, le lendemain aussi, et après j'ai participé à la dépollution avec d'autres plongeurs professionnels. Hein. J'ai suivi, on va dire, l'histoire de A à Z, et c'était une finalité.
Il y a six personnes pour l'équipage. Il y a le patron, bon, qui est le commandant, donc il a ce rôle-là. Il a son adjoint qui est aussi compétent pour être patron, mais qui est patron adjoint si on veut. Donc les deux personnes qui sont à l'avant de la timonerie pour conduire le bateau et puis prendre des décisions qui vont bien. Il y a un mécanicien qui est le mécanicien attitré du bateau, et il a aussi des remplaçants. Il y a le radio, donc qui est à sa place de radio, et puis deux personnes qui peuvent être, suivant les missions, plongeurs, secouristes, ou bien polyvalents, si on veut. Et donc, chacun a son rôle, et tout le monde a une part collective. Quoi.
Moi, je suis plongeur depuis 28 ans, j'ai commencé à 10 ans. Donc, je suis moniteur fédéral de plongée à la base. Et je suis arrivé un peu bizarrement à la SNSM, c'est qu'un jour ils ont pris un bout dans l'hélice et ils ont eu besoin d'un plongeur et je suis rentré comme ça et depuis ben, j'y suis tous les week-ends quoi.
Vous êtes appelé tous les week-ends?
Non, tous les week-ends, c'est parce qu'on a les entretiens et les entretiens et puis tous nos exercices les samedis matin quoi. Après on est appelé de temps en temps, souvent les inters et suivant qui c'est qui est dispo par rapport à nos boulots quoi.
Et donc vous, on vous appelle en tant que plongeur, pas à toutes les interventions, juste à celles qui nécessitent de faire intervenir un plongeur?
Oui et non, parce que dans la SNSM, que ce soit le plongeur, le radio, le mécano, on est tous de toute façon à la base des canotiers. Donc je peux monter à bord comme canotier pour aller sur le pont, faire plein de choses, mais j'ai une qualification en plus d'être plongeur. Mais à bord des vedettes, qu'on soit plongeur, qu'on soit nageur, quoi, voilà, on est tous d'abord à la base canotier pour pouvoir faire un équipage qui s'entend et qui puisse intervenir dans les meilleures conditions. Alors, normalement, en tant que plongeur intervention, on est au minimum deux dans l'eau avec un surveillant en surface. Mais le rôle du plongeur à bord d'une vedette, c'est vraiment s'il y a un naufrage avec suspicion de personnes bloquées dans le bateau, où là on va se mettre à l'eau pour vérifier qu'il n'y ait personne de bloqué avant de rentrer au port et de laisser quelqu'un derrière au cas où quoi. Ça peut être une personne bloquée dans un bateau qui a chaviré, ça peut être une personne bloquée sur un caillou qui s'est fait bloquer par la marée. Alors, on va aller chercher à la nage même s'il n'y a pas besoin de bouteille, mais on va aller chercher, ou malheureusement des fois aller chercher des corps après suicide ou autre quoi.
Ça vous est déjà arrivé?
Oui. Oui. Les premiers, ben forcément, c'est douloureux, on n'endort pas bien les premières nuits. Après, on essaye de garder une certaine distance avec tout ça et en discutant avec nos collègues et en détraumatisant. Et voilà, il ne faut pas ramener non plus tout le stress à la maison non plus. Voilà. Comme tout corps d'urgence, hein, d'ailleurs, que ce soit les pompiers et autres, je pense qu'on a la même vision, c'est qu'il y a beaucoup de discussions après derrière pour pas qu'il y ait de cicatrices, on va dire.
En même temps, ça demande une forme de concentration assez importante de plonger, j'imagine. Il ne faut pas trop se laisser gagner par le stress.
C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai d'autres diplômes là derrière. Je suis plongeur loisir, moniteur fédéral, mais je suis aussi plongeur professionnel. Donc forcément, plonger dans de l'eau où il n'y a pas de visibilité, où on est dans le noir, et voilà. Donc ça, je suis habitué. Donc c'est vrai qu'après, que ce soit en sortie même normale, pour aller chercher quelqu'un la nuit qui est malade sur une île, on a toujours le coup de stress, d'adrénaline qui monte. Et en plongée, c'est la même chose, sauf que là, on est sous l'eau et que du coup, on peut être que deux dans l'eau avec les bateaux autour. Et oui, mais après, il faut juste le comprendre avant de se mettre dans l'eau, savoir dire non, quand on juge que ça peut être compliqué. Et puis après, on fait ce qu'on peut, quoi.
Ça vous est déjà arrivé d'avoir à dire non?
Pour l'instant, non. Non, pour l'instant, non.
Sébastien Jacques, je suis infirmier, j'ai 43 ans, je suis sur la SNSM du Conquet depuis 4 ans. Je suis embarqué sur la Louve et sur le semi-rigide et je tiens mon rôle d'infirmier et en même temps de canotier parce qu'on a tous notre place de marin à bord. Voilà. En plus de ça, je suis donc dans mon métier infirmier aux urgences psychiatriques, j'ai une spécialité de gestion du stress. Et là, depuis quelque temps, sur le Finistère, il y a une cellule qui est en train de se créer pour gérer les situations de post-traumatisme et de stress.
Je pense que le fait de mettre une cellule interne comme ça dans la SNSM, c'était un petit peu justement pour avoir des gens qui étaient déjà dans le milieu. Parce que je pense que quelqu'un qui vient de l'extérieur, de l'hôpital, formé hôpital, n'a pas toutes les connaissances et tout l'approche qu'il peut y avoir au niveau maritime.
Jusque-là, d'après vous, comment c'est pris en charge par les sauveteurs eux-mêmes, autant que par les victimes, mais plutôt pour les sauveteurs?
Comment sauveteurs, c'est géré? C'est un milieu de marins. Je pense que les choses se font plus en interne, où les gens parlaient entre eux. Voilà, ça, au retour des interventions, où les choses n'étaient pas trop extériorisées des stations, ça restait très, très interne. Et l'intérêt de ces interventions-là par des professionnels permettra quand même de faire sortir plus de choses et de de laisser à certaines personnes qui peut-être ne parlaient pas à l'époque d'aller les chercher et de leur faire verbaliser plus de choses. On est formé à évacuer les gens, on est formé à s'en occuper sur le moment, mais on n'a pas, pour la plupart, de connaissances médicales et qui fait que on peut par moment ne pas tout comprendre aux interventions et se retrouver face à une situation très grave et pas tous les moyens de la gérer. On n'est pas professionnel, on est secouriste à la SNSM.
Vous-même, vous avez souvent discuté avec des sauveteurs qui avaient pu être marqués par des interventions ou des traumatismes?
C'est des choses qui ne sont pas si formelles que ça. C'est des choses qui se disent comme ça au quotidien ou face à une autre intervention. Face à une intervention, on se retrouve avec des gens qui sont choqués sans trop le savoir. Les choses se disent naturellement. Il peut y avoir des séquelles chez certaines personnes. Tant sur les professionnels, enfin sur les gens de la SNSM que sur les victimes.
C'est pas du tout la même approche pour les victimes et pour les sauveteurs.
Non, du tout. La façon dont on fonctionne, les victimes, quand on arrive au port, on les dépose sur le port et ils sont pris en charge par les pompiers ou par le SAMU quand on arrive. Nous, on coupe le lien à ce moment-là et c'est vrai que on repart chacun de notre côté. Donc chacun continue à mûrir cette situation-là, chacun à sa façon. Donc il est important, je pense, que justement on se retrouve, on prenne les équipages à part dans un premier temps, mais aussi qu'on garde un contact avec les victimes, si elles sont volontaires, parce qu'on ne peut pas les forcer non plus à ça, mais justement pour faire verbaliser, pour intervenir à ce moment-là, et puis pour faire avancer les choses, ouais, et créer quelque part du lien aussi entre les équipages et les personnes qu'on a pu sauver. Ouais.
Voilà, ben Nicolas, moi je suis sauveteur embarqué donc à la station du Conquet depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Voilà, donc je travaille dans le domaine maritime aussi, vu que je développe des énergies marines renouvelables. Et je suis usager de la mer aussi, donc maintenant que j'habite en Bretagne, je m'étais toujours dit que voilà, si un jour je revenais près de la mer, je me rapprochais d'une station pour pouvoir apporter ma modeste contribution s'il y avait besoin, pour pouvoir aider les autres en cas de pépin en mer, quoi.
Mais c'est pas un accent breton, ça?
Non, alors moi je suis originaire en fait de Toulouse. Après j'ai vécu quelques années dans la région marseillaise, puis en Asie, à Singapour. Et voilà, depuis 2 ans je suis arrivé en Bretagne. Donc depuis 2 ans j'ai intégré la station de sauvetage du Conquet.
Vous avez appris des compétences particulières pour aller sauver des gens en mer?
Bon, on a une formation continue, on va dire, qui bénéficie à la fois de l'expérience de les personnes de la station, puis après on s'entraîne tous les samedis matin, on se retrouve à l'abri, il y a des jours où on entretient, il y a des jours où on part en mer. Voilà, moi j'ai fait la formation de nageur de bord donc aussi, donc il me permet de pouvoir me mettre à l'eau et d'aller intervenir dans les endroits où le bateau ne peut pas se rapprocher, donc que ce soit sur les rochers, que ce soit des endroits inaccessibles, on va dire. Ici au Conquet, on a parmi les mers les plus dangereuses du monde, donc c'est sûr que pendant cette période d'apprentissage, on apprend aussi à connaître notre zone, à connaître les cailloux et ses dangers. Et je pense que tout marin, quand il arrive dans un endroit qu'il ne connaît pas, dans tous les cas, il doit apprendre, se rapprocher des locaux et apprendre.
Duel en mer, les sirènes de la SNSM. Avec Jean-Claude Pelletier, Frédéric Maurice, Didier Quintel, Jean-Pierre Clochon, Bertrand Marek, Sébastien Jacques, Nicolas. Merci à François Kersaudi, Pascal Violette et David Leborgne. Merci à Michel, Patrice et Catherine. Prise de son, Éric Boisset. Documentation INA, Hervé Evano. Mixage, Olivier Dupré. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Clémence Marie, réalisé par Rafik Zénine.
Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain. Il risque d'y avoir de l'orage, mais c'est une autre histoire.